Les séminaires du Collège de France.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureux d'accueillir au Collège de France pour un cycle de 4 cours Gianfranco Agosti, professeur à l'université de Pise. Alors, pas seulement parce que nous nous connaissons depuis presque 30 ans, et que nous partageons, je crois, pouvoir le dire, une certaine complicité intellectuelle, mais avant tout parce que je le considère, nous le considérons comme un des plus éminents spécialistes de la poésie et plus largement de la culture de l'Antiquité tardive, dont l'aura scientifique se mesure aussi bien au nombre impressionnant d'invitations à l'étranger dont il a fait l'objet qu'à celui non moins impressionnant de ses publications, de volumes d'édition et traduction du plus grand et du plus influent poète grec du 5e siècle, Nonos de Panopolis, le chant 5 de la paraphrase de l'évangile de Saint Jean, les chants 25 à 39 de ces dionysiaques, hein, deux volumes qui totalisent presque 1500 pages, plus d'une dizaine de livres édités, presque 150 articles qui font référence, hein, dans le domaine de l'Antiquité tardive. Donc une masse d'érudition et de nouvelles perspectives qui ne permettent pas de regarder comme avant cette période pendant trop longtemps décriée et encore, je dirais, trop souvent au purgatoire dans les programmes de nos concours ou de nos universités. Alors la nouveauté du regard que Gianfranco Agosti nous invite à avoir, pas simplement sur la littérature grecque de cette époque, mais sur toutes les formes de production écrite, voire plastique, eh bien, vous allez pouvoir en faire l'expérience lors des 4 conférences qu'il va donner au Collège de France tout au long du mois de mars. Il se propose en effet d'interroger à nouveau frais le concept d'hellénisme en rompant avec la vision, j'utiliserai une catégorie très, très utilisée par les anglo-saxons en ce moment, la vision top-down, qui sous-tend encore trop souvent les études dans le domaine, en faisant dialoguer plusieurs types d'écrits, inscriptions, papyrus, sources littéraires, de formes très différentes, poésie, prose, en interrogeant le lien essentiel durant cette période entre écrit et oralité, et en éclairant la culture grecque dans la variété de sa polyphonie, pour utiliser le terme qu'il affiche dans les titres de ses cours, notamment à travers les rapports qu'elle a entretenus avec les cultures locales à l'œuvre dans l'Orient grec. Donc, approche bottom-up, croisement entre les différentes formes d'écrit, prise en compte de l'oralité, du multiculturalisme, voilà, entre autres, un programme, évidemment, qui ne peut que réjouir le papyrologue que je suis, qui depuis des années, aussi bien dans mon cycle de cours que j'avais appelé Babel sur le Nil, que maintenant dans celui intitulé Le Calam et la Croix, cherche à montrer, en partant des papyrus, les transformations profondes qui ont affecté la culture grecque classique durant cette période de transition, mais surtout de renouvellement sans précédent que fut l'Antiquité tardive. Et je me félicite qu'un savant comme Gianfranco Agosti puisse enrichir cette réflexion par la présentation de ses propres recherches et de ses nouvelles approches. Et je n'ai aucun doute, pour filer la métaphore des titres de ses cours, que de cette polyphonie ne résultera qu'une stimulante euphonie. Et donc, voilà, je souhaiterais lui souhaiter la bienvenue et lui remettre cette médaille que nous remettons aux professeurs invités au Collège de France.
Merci Jean-Luc. Voilà, merci Jean-Luc pour ton introduction, pour m'avoir invité. Pour moi, c'est un grand honneur d'être ici, évidemment. Je vois dans la salle beaucoup d'amis et de collègues que je ne voyais depuis longtemps, donc je suis particulièrement heureux. Et je vais lire mon texte, donc j'espère que mon français sera tout à fait compréhensible. S'il y a des italianismes, je vous prie de me pardonner à l'avant. Notre parcours à travers les voies de la culture grecque dans l'Antiquité tardive commence par une région périphérique du monde tardo-antique. C'est une histoire racontée par un poète raffiné qui fut également historien. La région, c'est la Lazique, à peu près la Géorgie occidentale. À la fin de l'année 555, le mécontentement du roi de l'Azès, Gubazès, allié de Justinien contre l'Empire perse, face à l'ineptie des commandants romains, tourne à la tragédie. Le général Rusticus, avec l'appui de Martinus, prétextant une trahison de la part de Gubazès, du roi de Gubazès, le tue. Après la victoire à Fas, les Lazes, qui étaient encore alliés des Romains, font appel à Justinien, qui envoie l'an suivant dans la région le sénateur Athanase pour instruire un procès. Agathias, le continuateur de Procope et l'éditeur du cycle d'épigrammes de l'âge de Justinien, le Cyclos, a dédié à ces procès l'une des sections les plus suggestives de ces histoires. C'est le livre 4, paragraphe 1-11, ce qui représente bien 15 pages dans l'édition Keidel. Un passage qui est aussi, une section qui est aussi « The only extended account of a judicial procedure in late antiquity », ainsi que ne manqua pas de le remarquer le grand spécialiste de la rhétorique tardo-antique George Kennedy. Justinien veut montrer à ses alliés la force et la justice de l'appareil judiciaire et impérial et met en place un tribunal romain, ou plutôt attique, dans le Caucase, comme le note Agathias, qui continue. C'est le passage que vous avez dans l'écran. Ce n'est pas sans raison ni par hasard, à mon avis, mais pour avoir recherché très sagement ce qu'il convenait de faire, que l'empereur Justinien avait ordonné de procéder au jugement avec une telle mise en scène et une telle solennité, taxi que efkosmia. Ce n'était non seulement pour que les barbares de l'endroit, au spectacle quelque peu ostentatoire des procédures légales romaines, en soient impressionnés et s'habituent à être régis par elles, mais, fin de la citation, je résume un peu Agathias, mais aussi pour des raisons de réal politique, c'est-à-dire la nécessité de conserver l'alliance avec les Lazès. L'équerre de cette mise en scène, pour reprendre les mots d'Agathias, est la parole. La procédure prévoit la lecture d'une lettre de Justinien et puis des longues harangues élaborées fondée sur l'application exemplaire de la stasis comme elle s'enseignait dans les écoles de rhétorique. Les accusateurs Lazès, capables de s'exprimer dans un grec courant, ton col con i enfronestati, qui est idi et plistuti nell'ada phonin et mematicotes, les plus instruits de colc, Agathias utilise toujours les mots anciens pour faire de l'archaïsme, comme c'était l'habitude dans les historiens classicisants de son temps. Les plus instruits de Colc, qui longtemps déjà avaient appris la langue grecque, sont les accusateurs. Et ils parlent d'abord. Puis les accusés exposent leurs raisons. À la fin, les juges déclarent les généraux coupables, renvoie Martinus et condamne Rusticus à être exécuté sur les champs. Un verdict qui montre aux Lazès la bonne foi de l'empereur et l'impartialité de la justice romaine. Il est fort probable qu'Agathias ait réélaboré les deux discours qui sont des pièces de bravoure dans sa prose baroque. Mais ce n'est pas la question des sources qui m'intéresse aujourd'hui. Les discours des accusateurs Lazès, qui pourtant déclarent ne pas être à la hauteur, c'est le deuxième passage sur l'écran, nous accomplissons ce qui est ordonné par la loi, même si nos paroles sont simples et sans ornement, à plat qui est ichista qui conserve mena, et qu'elle n'égale pas l'importance des actes commis. Malgré cette déclaration, les accusateurs sont capables de faire un discours qui aurait sûrement pu sortir d'un cours de rhétorique. Comment Agathias, ainsi que ses contemporaines, pouvaient-ils penser que les spectateurs locaux, destinataires primaires de la mise en scène voulue par Justinian, seraient en mesure de comprendre? C'est le même Agathias qui nous donne une réponse. Pendant que les accusateurs exposaient leurs griffes, la foule de colques qui était assemblée là ne pouvait bien comprendre le sens des paroles ou la valeur des raisonnements avancés. Cependant, comme ils connaissaient les faits dont on débattait, ils accompagnaient avec enthousiasme les efforts des plaideurs et même les imitaient par leur changement d'attitude. La disposition de leurs âmes était telle qu'ils semblaient partager leurs pensées et leurs émotions. Uto tetas psychas diekindo, osan aftis ekini fronimatos echin i icto edochun. En d'autres termes, les colques qui assistaient au procès et qui, avec toute vraisemblance, connaissaient peu ou pas les Grecs, suivaient la performance rhétorique en captant, à partir des gestes et des intonations des orateurs, la progression du discours, ou, si l'on préfère, en percevant l'essence émotionnelle de ce qui était dit. La participation à la récitation d'un discours et à toute forme d'expression littéraire en général est un phénomène bien connu. L'Antiquité tardive est une époque de performances et la littérature est en premier lieu conçue pour être écoutée. C'est déjà Guglielmo Cavallo dans un beau livre de 2007 qui avait bien montré ça, lire à Byzance. Mais le passage d'Agathias nous rappelle que cette manière de recevoir la parole ornée était considéré également possible aux confins du monde hellénisé, et même chez eux qui ne connaissaient pas bien ou pas du tout les Grecs. Il ne s'agit pas d'un témoignage isolé. On pourrait retracer une chaîne qui passerait par l'observation malicieuse de Libanios à propos du public constantinopolitain qui participait à ces récitations publiques, c'est la première citation sur l'écran, « L'on y venait quelqu'un pour entendre mes paroles, mais la plupart pour voir mes gestes, c'est asomeni kinoumenon, car il y avait dans ce Sénat-là beaucoup plus de militaires que d'intellectuels. » Libanios n'aimait pas trop le public de Constantinople. La chaîne pourrait continuer jusqu'à des loci classiques constitués par des passages de Philostrate. Les premiers au sujet de Favorinus d'Adl, c'est un passage très connu. Favorinus à Rome attirait parmi ses auditeurs même ceux qui ne comprenaient pas les Grecs. Ositis linon phonis axineti isan. Il les fascinait par le ton de sa voix, par l'expression de son regard et par le rythme de ses paroles. Et chi tu phtengmatos que tos imenondi tu vlemmatos que to rythmo tis glossit, tis glottis. Et le second, au sujet d'Adrian de Tyre, l'ennemi de Lucian, où Philostrate dit que les Romains écoutaient comme un rossignol au Duchamp, fasciné par l'éloquence et glottia, la qualité et la souplesse de la voix et les rythmes de la prose et du récitatif. Les modulations de la voix et les rythmes du discours constituaient l'un des principaux vecteurs de réception de la littérature dans le monde grec tardif. Il s'agit d'un espace communicatif dont nous connaissons bien les cadres et les modalités de mise en œuvre. D'ailleurs, l'étude de la rhétorique et de son enseignement à l'époque tardive a beaucoup progressé ces dernières années, mais nous connaissons beaucoup moins bien les effets. Dans ces cours, dans ces leçons, je voudrais explorer avec vous les conséquences de l'oralité dans l'Antiquité tardive et le rôle qu'elle a eu dans la diffusion de la culture, en donnant, si je pourrais, une nouvelle définition du concept même d'hellénisme et de sa présence également dans les strates les moins instruites de la société. Les analyses de la production littéraire grecque se fondent d'ordinaire sur des catégories conceptuelles et méthodologiques bien établies. Prose d'art, poésie épique, intertextualité, etc., qui souvent se traduisent par des oppositions binaires, Léo versus Lebas, païen versus chrétien, prose versus poésie, hellénisme versus culture locale, et mettent au centre la parole écrite. Du reste, l'Antiquité tardive est considérée comme un âge lettré par excellence. Je voudrais au contraire mettre au centre la performance orale des textes. Cherchons maintenant à mieux comprendre ce qu'Agathias dit à propos des émotions de l'as. Examinons pour cette... Examinons le préambule des histoires. Bien qu'Agathias fasse attention à distinguer entre histoire et... il y a un diapo qui est malheureusement hors place. Voilà, je lis le texte, pas de problème. Alors, bien qu'Agathias fasse attention à distinguer histoire et poésie, comme il convient de le faire dans les prologues d'un ouvrage historique, il ne peut manquer de rappeler que l'élan décisif de son écriture lui est venu de la conviction différente de son protecteur Étiquien. L'histoire, je cite, n'est pas loin de la poésie, que toutes deux sont sœurs de même famille et qu'elles ne diffèrent entre elles que par les maîtres. Isotometro, isostometro, estin i allilon apecrimena. Agathias fait sienne cette idée, la réitère dans les poèmes du livre troisième, où il déclare vouloir associer les grâces aux muses, où il cite Euripide, un passage d'Euripide, c'est-à-dire unir les Thelgon et l'Ophélimon, les charmants et l'utile. L'idée de la proximité entre histoire et poésie sera reprise par ses successeurs, comme Ménandre le Protecteur ou Théophylacte Simocat, encore au VIIe siècle. L'affirmation en elle-même n'est pas étonnante, étant donné qu'Agathias était un poète raffiné, donc il connaissait bien la poésie en tant qu'auteur. L'éditeur du cycle, en fait, était rompu au prétendu style moderne, l'art baroque porté à la perfection au siècle précédent par Nonnos de Panopolis est devenu aussitôt canonique. Et les histoires, bien que soient un ouvrage en prose, sont écrites dans un style flamboyant qui contient souvent des termes poétiques et beaucoup sont précisément tirés de Nonnos. Après tout, ce n'est pas un hasard si Rudolf Keidel s'est consacré aux histoires après avoir étudié pendant des décennies les Dionysiaques. Il y a un fil rouge qui porte de Nonnos à Agathias, de la poésie à la prose. Et en fait, en réfléchissant sur la carrière de Rudolf Keidel, que la première idée de ses cours m'est venue à l'esprit. En bref, dans la pratique, Agathias montre qu'il est convaincu de la proximité de la poésie et de la prose. Il s'agit du reste d'une contiguïté qui caractérise un peu toute la production littéraire tardo-antique et qui se reflète aussi dans la prose des documents. L'aspect le plus manifeste, et même quelque peu évident, d'une telle contiguïté est, comme je le disais, l'aspect lexical. La présence des poétismes dans la prose, par exemple, des unpoetische Wörter dans la poésie. Il s'agit toutefois uniquement du niveau visible en surface d'une telle contiguïté. Il existe, je crois, un niveau plus profond qui est précisément exprimé dans les paroles d'Étiquien dans les prologues d'Agathias. La différence réside uniquement dans les maîtres. Que cela signifiait pour un auteur du VIe siècle? En théorie et en pratique, à partir du IVe siècle, je me tourne vers le rythme de la prose maintenant, on assiste à une révolution profonde dans la prose littéraire grecque. L'emploi d'un rythme fondé sur l'accent tonique, sulla répétizione, le parallélisme des unités des sens les plus petites, le colà et le commata. Les clausules de la prose tendent à se terminer par un mot proparoxyton, la prétendue loi de Bouvy, ce qui est intéressant, alors que le pourcentage des mots proparoxytone en grec est de 24%, et la clausule avec un accent proparoxytone, c'est un pourcentage supérieur aux 50% et arrive jusqu'à 90%, par exemple chez Imerios. Non, c'est quelque chose de cherché et de pas naturel. Le nombre de syllabes, la seconde règle qui gère la prose, comme vous voyez dans l'écran, c'est que le nombre de syllabes non accentuées entre les deux dernières accentuées doit être pair. Donc, deux ou quatre syllabes, c'est la loi de Mayer-Maas. Par exemple, les rythmes les plus fréquents, c'est ce qu'on appelle FD, donc accent. Syllabe non accentuée, syllabe non accentuée, accent encore, comme in protinete logus. Ce rythme peut être redoublé, même triplé, etc. Les études successives de Dewin, Skimina, surtout Eurandner, Laugstermann et Vesela Valjavicherska, dans un livre de 2013 très important, Rhetoric and Rhythm in Byzantium, on enrichit et précisé les cadres, montrant surtout que ce qui était en certain moment une tendance de la langue devient une norme et que les rythmes et les unités de cola étaient considérés comme tout à fait caractéristiques. La forme avec des syllabes non accentuées entre les deux derniers accentuées est de loin la plus fréquente, FD, ce qui explique aussi la popularité de la clausule proparoxytone, qui, selon Laugstermann, crée une sorte d'écho avec ce qui la précède, d'où la fréquence dans la prose de ce qu'on appelle les doppel dactylus, comme dialegonde anthropi. Plutôt que d'écho, je dirais qu'il s'agit de régularité et de reconnaissabilité, des catégories sur lesquelles je vais retourner d'ici quelques minutes. La poésie accentuative, parce qu'il y a aussi une poésie complètement accentuative qui commence, qui naît de manière quelque peu mystérieuse entre le 5e et le 6e siècle, partage avec la prose surtout la tendance à établir des structures fondées sur des colas parallèles, délimitées par l'accent tonique, des anaphores, des figures sonores dites gorgianes. Une tendance qui, dans la prose, comme vous le savez, apparaît déjà dans la seconde sophistique, chez Aristide, Méliton de Sade, etc., qui on se trouve aussi dans le roman pastoral de Longus, par exemple, au IIIe siècle. Donc, prose et poésie accentuative. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que la poésie classicisante emprunte ce chemin. De fait, la poésie hexamétrique du 5e siècle subit une profonde restructuration qui parachève des tendances initiées des siècles auparavant et qui culmine dans ce qu'on appelle style moderne, rendu canonique par le poète Nonnos de Panopolis, actif à Alexandrie dans la première moitié du 5e siècle et auteur d'un très long poème sur Dionysos, 21 000 hexamètres, d'une réécriture baroque en hexamètre de l'Évangile de Jean. La meilleure manière de décrire ce style est sans doute de voir comment le poète lui-même le définit. Et parmi les passages où il parle de son style, j'ai choisi cela qui est particulièrement intéressant à mon avis. Nous sommes au chant 19 de Dionysiaque et le poète met en scène un concours de chants entre Erechthé, l'Athénien, et Agre. Erechthé chante en langue hymne locale athénien, alors que sont 18 vers, alors que Agre, l'époux de Calliope, répond par un seul distique à la sérieuse manière dorique. Les deuxièmes, le seigneur Eagros, tissent un chant riche en variations, lui le père d'Orphée, le compagnon intime du muse. Il entonne cette harmonie distique sur un air inspiré des phoibos, la parole sobre et le verbe sonore selon l'usage d'Amiclée, c'est-à-dire selon l'usage laconique. A Iacintos le chevelu, la vie Apollon rendit, à Staphylos, immortalité Dionysos donnera. Je le vais lire en grec aussi, Efkethin Iacinton, Anesogrisin Apollon, Kesta Philon Dionysos, Aisonda Telessi. La performance de Agre provoque dans l'auditoire une réaction enthousiaste, et Dionysos lui-même ne réussit pas à rester en place face à ses chants harmoniés. Le chant n'est pas encore terminé que les assistants à gorge déployée répondent par des acclamations unanimes à ces paroles propices. La foule des satyres mène grand tumulte, Bacchos n'arrête pas de bondir de son siège, levant et abaissant les bras droits, et Bothris se précipite, au cri de Voé, il louange l'harmonieuse composition du poète Harmonin Evrithmon Aidopolio Guerreron. C'est le dernier vers. Pourquoi un tel enthousiasme? En fait, les deux vers des Agres ont une structure parfaite. Je retourne. Ok. Ce sont des unités de sang complets, composées chacune de quatre mots, les vers 104, des quatre mots grammaticales, et les vers suivants en caille en plus, mais qui est un cheville métrique. Et ce sont des vers parfaitement équilibrés et parallèles, un sujet, un complément d'objet avec un adjectif, un verbe. La césure trochaïque les divise en des colas composés chacun de deux mots. Donc A, A, B, A, B, ça c'est la structure. Ce n'est pas un hasard si les vers 105 dans lesquels Bothris exprime son admiration pour le chant est de nouveau un vers des quatre mots. Le vers 111, Harmonin Evrithmon, pose Aidopolio Guerreron, encore un vers composé de quatre mots. En fait, le versus tetracolos, si c'est le nom technique de ce type de vers, est un type d'hexamètre connu de manière épisodique depuis Homère, mais qui devient très fréquent dans la versification tardo-antique, aussi bien dans la forme avec quatre mots grammaticaux que dans celle avec une cheville métrique. Je rappelle à côté que ces poètes encore connaissaient les conseils des mots métriques, des chevilles métriques. C'est-à-dire qu'ils savaient bien qu'un appositif forme un seul groupe avec une orthotonique pour les besoins métriques. La fortune de ces vers, en général, est en général attribuée, dans les commentaires, aux effets de grandiloquence des solennités qu'ils véhiculent. Cela est indéniable. Par exemple, on a pas mal de passages où les vers fonctionnent comme un marqueur de solennité, par exemple, où il souligne l'importance d'une idée, d'un passage, etc. Je pourrais vous montrer maintes d'exemples, mais je passe cette partie-là. Je veux dire, il y a des exemples très, très intéressants chez Grégoire de Nazianz, chez même les poètes moins surveillés, comme Edossi, chez Nonnos, évidemment, mais même dans les inscriptions en vers, les inscriptions métriques. Mais cela, on va le voir dans les cours suivants. Alors, si les exemples pourraient facilement se multiplier, ce que nous avons vu dans l'écran, Sophie a constaté que l'une des raisons pour laquelle Eagre remporte l'agone contre Erecté est la grandiloquence de son distique. Un distique composé par des vers composés de quatre mots seulement. Et ce n'est pas par hasard que les chants de son rival Erecté, qui avait précédé dans les passages de Nonnos, n'avait qu'un seul tetracolos sur 16 vers. C'est-à-dire qu'il n'était pas capable de faire un vers harmonié comme Agre. Mais évidemment, la solennité n'est pas exactement identique à l'harmonie rythmique. Une définition, cette dernière, qui révèle qui révèle que ce n'est pas seulement une question de style, mais quelque chose de plus profond, à mon avis. C'est quelque chose d'inhérent à la structure de l'hexamètre tardo-antique. Les vers de Nonnos, les vers de Nonnos et de ses continuateurs sont caractérisés par la très forte tendance à établir une structure bien équilibrée, empruntant les chemins de l'isosyllabisme. Par exemple, par rapport à Homère, les formes de l'hexamètre sont très réduites. Homère a 32 possibilités et Nonnos 9 seulement. Et surtout en vertu de l'attention portée à l'accent tonique des termes à la clausule et avant la césure médiane d'une structure qui est nettement bipartite. Vous voyez un schéma ici sur l'écran. Malgré la grille complexe des contraintes qui les caractérise, qui est complexe pour nous, pour les métriciens modernes, qui ont dû patiemment en découvrir les règles. Je vous assure, j'ai passé quelques années à étudier la métrique des Nonnos et ça m'a fallu du temps pour comprendre les mécanismes. Peut-être j'ai gaspillé mon temps, mais ça c'est autre question. Dans son essence, le vers des Nonnos est très simple. Il y a une unité à décolla, dans laquelle la fin du vers est marquée par une clausule avec l'accent sur la penultième, ce qui permettait aux auditeurs de reconnaître qu'on était arrivé à la fin, avec l'articulation centrale formée par une césure très nette, la plupart du temps trochaïque ou féminine, signalée aussi, elle aussi, par l'accent tonique proparoxyton et paroxyton properismène. Dans le cas rare d'une césure masculine, l'accent est presque obligatoirement paroxyton properismène. À vrai dire, c'est un vers qui était conçu pour être perçu comme des unités bien marquées par une forte césure moyenne et par les accents intensifs. Mais c'est un vers, si vous le lisez, qui rassemble au vers de la tradition épique. Donc, si on connaît la métrique d'Homère, on peut lire même Nonnos. Et apparemment, il semble la même chose, mais c'est quelque chose de complètement différent. Nous pourrions donc faire l'hypothèse que la disposition rythmique des colas est la clé du succès du chant des agres, du distique harmonieux. Ces distiques font montre d'une rythmie qui l'élève et il est structuré en décollat bref et possède un caractère pathétique. Ces aspects trouvent leur confirmation dans la définition de l'érythmie donnée dans l'un des traités du corpus hermogénien, qui a été assemblé au 5e, 6e siècle, les traités Peri et Vraiseos d'invention, l'invention, qui, selon Patillon, c'est une hypothèse très séduisante, est un ouvrage d'Aspasios de Byblos. L'érythmie, dit le pseudo-Hermogène, également donne à la chute un tour panégyrique, de sorte que le style panégyrique se manifeste de deux façons, ou bien dans l'expression, du fait de l'érythmie, ou bien dans le contenu, à cause de la recherche dans l'énoncé des faits. L'expression de l'exode aura dans les séquences politiques des colas plutôt longues. Et avec colas longues, Hermogène, le pseudo-Hermogène pense à la mesure d'un hexamètre, 12 syllabes, de 12 à 15 syllabes, et étiré. Et dans les séquences pathétiques, des colas plus ramassés et plus faciles à saisir. Les colas plus ramassés sont justement les petits colas de la prose rythmique de l'hexamètre. La grande prose d'art des 4e et 5e siècles, contemporaine de Nonnos, celle qu'on a pris l'habitude d'appeler la troisième sophistique, c'est-à-dire entre autres Imérios, Libanios, Grégoire de Nazianz, Grégoire de Nice, mais aussi Ammian Marcellin, les 1007 Graecus, obtient ses effets stylistiques à travers les savants usages des colas plus ou moins longues et des clausules, marquées par les rythmes des syllabes accentuées et non accentuées. Dans la perception des contemporaines, elle avait un rythme semblable à celui de la poésie. Voyons par exemple ce qu'en dit le philosophe néoplatonicien Damasios dans un fragment de la vie d'Isidore au sujet de son maître Isidore. Même ceux qui dirigent les écoles de rhétorique et de poésie ont des échanges fréquents avec le philosophe Isidore, car malgré son manque d'expertise dans leur matière, il leur donnait, par sa précision philosophique, l'essence de la diligence dans leur petite discipline. En effet, il discutait de tout dans les moindres détails et critiquait les discours et les poèmes qu'il produisait plus que les autres. C'est-à-dire, il était capable de juger la qualité de la poésie. À l'occasion des représentations rhétoriques au théâtre, il faisait l'éloge des interprètes avec modération et d'un ton calme, mais avec pertinence et jugement. Et presque tous les théâtres utilisaient son jugement comme critère pour évaluer les mérites ou les fautes des orateurs. Parmi mes contemporaines, je connais trois critiques capables de juger les produits de la parole en prose et en poésie. Car il est admis que le jugement de la poésie et de la prose relève de la même personne. D'ailleurs, je pense qu'une même personne peut être créatrice dans les deux domaines, à condition qu'elle reçoive la même formation et qu'elle ait le même enthousiasme pour les deux genres. Tout en tenant compte des intentions encomiastiques de Damasios, particulièrement visibles dans la description des jugements calmes d'Isidore, donc à l'opposé de ceux décrits par Nonnos, on l'a vu, ou par Limagnos pour l'empereur Julian, le passage est tout à fait explicite quant au fait qu'il était communément admis que prose et poésie étaient de même nature. C'est pour ça que j'ai choisi ce passage, parce qu'il vient d'une tradition, disons, qui est loin de la tradition rhétorique technique. Le montre encore l'interchangeabilité des fonctions entre prose et poésie, qui est un phénomène qui, par exemple, explique en partie toute une littérature de l'Antiquité tardive, comme l'épopée biblique latine et grecque, ou la fortune du genre de la paraphrase poétique, les poèmes de Nonnos qui paraphrase l'Évangile de Jean, les Saint-Cyprien de Dossi qui paraphrase une hagiographie du IVe siècle, et ainsi que des œuvres qui sont composées à la fois en prose et en vers, comme le Carmen Pascale et l'Opus Pascale de Sedulius en latin, ou la vie de Proclus et Marinus, qui avait été rédigée à la fois catalogaden che epikos, c'est-à-dire en prose et en poésie et en hexamètre. Ou même les poèmes d'un amateur comme Dioscore d'Aphrodite, qui travaillait probablement sur un canevas en prose qu'il versifiait, comme l'a bien montré Jean-Luc Fournet. Et le témoignage de Dioscore est autant plus important parce qu'il vient justement de la littérature de bas niveau, disons comme ça. À la lumière d'une telle contiguïté, je crois pour ma part qu'il est temps de repenser certains des paradigmes interprétatifs de la poésie tardo antique et celle de Nonnos en particulier. C'est un plaisir de parler de Nonnos à Paris parce que vous savez qu'ici, Francis Vian et Pierre Chauvin ont vraiment redonné Nonnos à la littérature moderne avec avec l'entreprise de l'édition Biudet. Ce dernier, Nonnos, c'est un auteur dont nous ne savons presque rien, ceci n'est qu'il ouvra en Égypte, Thébaïde et Alexandrie, dans la première moitié du Ve siècle, codifiant dans ses deux poèmes, Dionysiaque et paraphrase, une norme qui a eu un succès presque immédiat et qui a déterminé le style de la poésie grecque jusqu'aux premières décennies du VIIe siècle. À quoi cette fortune elle est due? Donc, un auteur, après 30 ans peut-être, toute la poésie grecque a changé, toute la poésie a été composée dans le style de Nonnos. Je voudrais suggérer des facteurs pour cette fortune, des facteurs qui sont liés entre eux. Le premier est précisément l'influence de la prose sur la poésie de Nonnos, et le second, la nature de son vers, pensé en premier lieu pour la récitation orale. L'influence de la prose sur Nonnos a été beaucoup étudiée ces dernières années dans les termes traditionnels de la Quellen Fortune, surtout pour ce qui est des romans d'Achille Tassius, de Longus et de Léodore, et de leur présence dans les Dionysiaques. En outre, l'autre caractère prosaïque, entre guillemets, de la poésie de Nonno sera présenté par la présence des paroles et des phrases, des mots et des phrases de la prose chrétienne, présence qui a été mise toujours plus en évidence par les recherches récentes, également par les biais du consensus général sur la foi chrétienne de ces poètes. Dans la paraphrase en particulier, outre l'intégration des paroles d'expression de l'Évangile de Jean, un rôle important est joué par l'insertion des paroles et des phrases tirées des œuvres des Pères. En premier lieu, les commentaires à Jean de Cyril d'Alexandrie, mais aussi Grégoire de Nazianz, par exemple. En bref, nous pouvons affirmer avec certitude que l'on trouve dans la poésie de Nonnos la présence révélatrice d'un lexique provenant de la prose et étranger à la tradition épique. Cela, c'est un peu contradictoire. Le dernier grand poète épique de l'Antiquité qui fait recours à la prose, n'est-ce pas? Par conséquent, il peut être utile de tenir systématiquement compte de l'influence de la diction prosaïque pour mieux évaluer les codes épiques de Nonnos. Sur l'écran, vous avez un exemple qui me semble intéressant. Nonnos aime construire un système formulaire, un peu comme Homer ou certains poètes hellénistiques, mais c'est un système formulaire qui est un peu particulier. Dans les complexes systèmes formulaires, par exemple avec Auken, qui signifie « coup », qui a été étudié en détail par Ludwig et Hippolito par rapport alla tradizione épique, nous trouvons le schéma « Aufkena » à l'accusative, suivi d'un attribut qui éclaire la signification de la phrase. Par exemple, pour exprimer l'orgueil, la fierté, Nonnos utilise la combinaison Afghena Gavron Airin. La combinaison a un précédent épique dans Apollonios de Rhodes, comme vous voyez, et d'habitude les savants se contentent de ça. Ils disent Nonnos a reformulé ce que déjà Apollonios avait fait. Mais Afkena Erin, qui figure déjà au sens propre, lever le cou dans des passages de Xénophon, et Afkena Gavron Erin, au sens d'être orgueilleux, d'être fier, se trouve surtout dans la prose contemporaine à Nonnos. Il y a des occurrences chez Théodorette de Cyr, chez Cyril d'Alexandrie, surtout chez Procope de Gaza. Quoi faire de ces rapprochements? Voyons par exemple un passage du panégyrique d'Anastase de Procope, où l'auteur, on est à la fin de son discours, parle des statues de l'empereur et d'inscriptions à inscrire sur leur base. Dit Procope, les villes prospèrent, tout exhibe un ornement commun intelligent des représentations plastiques pour ta générosité, et nous avec elles. Ce sont des discours qui rendent hommage à tes portraits, des compétitions oratoires et par leur entremise les muses en personne. Mais quelle épigraphe y apposerons-nous? Laquelle pourrait convenir à ta dignité? Sans le moindre doute, ces mots, la cité à son bienfaiteur, grâce auquel, orgueilleuse, je relève la tête, les coups, proprement, et je suis pleinement cité. Il est facile de noter que les mots Afkenate, Gavron et Pero est exactement l'équivalent de la formule onienne Afkena, Gavron, Aire. Ma conclusion, et c'est une hypothèse de travail, que c'est quelque chose sur laquelle j'ai commencé à travailler depuis quelques temps, ma conclusion c'est qu'il est nécessaire de situer l'origine de beaucoup d'expressions typiques nonniennes, pas dans la tradition épique, mais dans la prose de l'Antiquité tardive. Il y a ensuite, c'est le second aspect, l'aspect rythmique, qui est particulièrement important de mon point de vue. L'hexamètre de Nonnos, dans sa structure typique, est formé de décollats qui finissent de préférence par un schéma accent, des syllabes non accentuées, accent syllabe non accentuée. Et la même clausule répétée avant la césure moyenne et à la fin. C'est-à-dire, c'est un hexamètre bipartite, marqué par l'accent intensif et avec une tendance à finir les deux parties du vers avec un nombre, avec des clausules, avec le même nombre de syllabes, comme dans un miroir. En plus, ici vous voyez c'est le même système de la prose qu'on vient de le voir. En outre, la prose et la poésie nonienne ont en commun la caractéristique fondamentale de l'organisation à travers des colas autonomes au niveau des sens. C'est-à-dire que chaque vers de l'onos constitue une unité de sens. Il y a peu d'enjambement, très peu d'enjambement dans son poésie. Sa mesure correspond d'ailleurs exactement à ce que les pseudes hermogènes appellent la longue ligne du colonne, mesurée sur le nombre de syllabes de l'hexamètre. Son style nominale participial, incluant de nombreux adjectifs et des verbes finis, s'adapte parfaitement à cette structure qui fonctionne par micro-unité et constitue le même style que la prose d'art. J'ajouterai que c'est pour cela que le lecteur qui connaît bien Nonos se sent chez lui en lisant Amiens Marcellin, par exemple, ou Libanios ou Grégoire, et vice-versa. Tout cela indique que Nonos était bien conscient que le public était habitué à percevoir et apprécier le rythme et la séquence des colas, et que c'est précisément pour cette raison qu'il a créé son hexamètre accentuel. D'ordinaire, on parle de son vers comme d'une tentative de compromis entre la prestigieuse structure quantitative et le changement linguistique. Mais si l'on renverse la perspective, je crois qu'on peut dire que Nonos s'est adapté aux structures rythmiques qui étaient désormais la norme. C'est-à-dire qu'il était parfaitement dans l'esprit du temps. Il a fait en bref ce qu'ont fait les maîtres de la prose des 4e et 5e siècles. Malheureusement, ces poèmes, qui sont, on l'a vu, constitués d'une série uniforme de vers, sont parfaitement adaptés à une performance orale, parce qu'ils sont reconnaissables dans leur structure rythmique. Malheureusement, nous ne savons pas exactement comment se faisait la récitation d'un poème dans un auditorium tardo-antique. Il y a pas mal de sources explicites sur les attentes du public, sur ses réactions et de temps en temps sur les difficultés que les auditeurs avec une moindre formation pouvaient rencontrer. En revanche, nous n'avons pas de témoins sans équivoque sur la manière effective dont les vers étaient déclamés, et sur ce point-là, un certain degré de spéculation est inévitable. En effet, les opinions varient, de l'idée de Paul Maas qui parlait des Haugenvers, des vers pour Leil, à la persistance de la lecture quantitative traditionnelle selon Albert Wifstrand. Rudolf Keidel, de son côté, avait émis l'hypothèse d'une récitation qui suivait les accents des mots ainsi que d'un prolongement artificiel des mots longs, c'est-à-dire un mouvement, ce qu'on appelle en grec agogé, plus lente, plus prononcée. Martin Steinruck, plus récemment, a suggéré une opposition entre les syllabes ouvertes et fermées. Ce sont tous des tentatives de comprendre quelque chose qui nous échappe finalement. Dans ces dernières années, cependant, l'hypothèse de lecture qui mettait l'accent sur les articulations rythmiques de base, c'est-à-dire sur la pause principale marquée par l'accent tonique et sur la clausule, a acquis toujours plus de faveurs. À peu près, c'est le correspondant de la lecture moderne de l'hexamètre, qui nous faisons, comme vous savez, de façon tout à fait artificielle. Pourquoi ça? Parce que l'audience, le public, avait besoin de reconnaître la structure métrique. On le voit bien à partir de la mise en page des inscriptions métriques, dont nous parlerons dans les prochaines cours. L'examètre de nos noces et de ses successeurs est sans aucun doute soumis à cette exigence, étant donné que la césure principale est toujours présente et que la fin des vers est toujours clairement signalée. En outre, la récurrence constante des trois coupures principales, qu'on marque avec des sigles d'habitude A, B et C, comme vous voyez ici, marque ultérieurement un cas de répartition en décollat. Et finalement, c'est là que réside, à mon avis, la raison de la fréquence croissante des vers à quatre mots, les tétracolas, qui confère des faits à l'examètre tardo-antique les plus hauts degrés de prévisibilité rythmique pour l'auditoire. C'est-à-dire, le public s'attendait de reconnaître les rythmes. C'est pour ça que cet examètre est un rythme très, très uniforme, quelquefois monotone. Cette prévisibilité est également assurée par, certaines caractéristiques du style que vous avez résumé ici dans l'écran. C'est un peu curieux, mais en cette époque, répéter, ça aide à comprendre. Et les structures qui se répètent en série sont les préférées parce qu'elles favorisent la compréhension orale de la littérature. Nous sommes ainsi revenus à notre point de départ, la réception orale de la parole littéraire. Comme je le disais au début de cette leçon, alors que nous sommes tout à fait habitués à parler d'oralité pour d'autres époques du monde classique, l'Antiquité tardive est encore trop souvent considérée comme une époque uniquement livresque, surtout par les historiens de la littérature, malgré ce qu'ont montré les recherches de ces dernières années sur la performance oratoire, l'improvisation, la lecture à haute voix des textes et la pratique scolaire. La conception de la contiguïté des structures et des rythmes de la production littéraire, qui inclut la prose d'art, la poésie épique et également la poésie accentuelle et les homélies, l'homilétique du 5e et 6e siècle, conduit, je crois, à avoir une vision différente. La voie de la littérature est inhérente alla sensibilité tardo-antique, come le montre innombrables passages où on parle de la voix des livres, par exemple, ou des passages où on parle de réaction face aux récitations. Vous avez ici, si j'arrive, non, bon, ce sont saltés des, ok, certaines diapos se sont cachées quelque part. Voilà. pour résumer, ce que dit Jean-Claude Schmitt dans son très beau livre sur le rythme au Moyen-Âge, à savoir que les mots « lieu écrit » valent plus pour nous par leur contenu sémantique que par leur réalité gestuelle et sonore, leur matérialité corporelle, leur accentuation, et ajoute Schmitt, il en allait tout autrement au Moyen-Âge, ce sont des mots aussi valables, je crois, pour l'Antiquité tardive. Et donc, je pense qu'il est urgent de reconsidérer le rôle que la voix et son rythme ont eu dans la diffusion et dans la circulation des idées de la production culturelle. Nous parlerons de cela plus avant dans les prochaines leçons. Comme transition, et pour récapituler tout ce que nous avons vu aujourd'hui, je voudrais terminer par un bref texte épigraphique. Il s'agit de cette inscription qui est encore in situ, qui provient du lanto de l'église de Saint-Georges à Zorava, et qui date au début du VIe siècle. Voilà l'inscription. Ce n'est pas extraordinaire cette photo, mais j'espère que vous arrivez à voir que le texte n'a pas de signes diacritiques et a été écrit en scriptio continua, pour ainsi dire. Voilà le texte. Le lieu de rassemblement des démons est devenu la maison de Dieu. La lumière salvatrice a éclairé ce qui était caché par les ténèbres. Là où il avait des sacrifices d'idoles, il y a maintenant des cœurs d'anges. Là où Dieu était injurié, il est maintenant rendu propice. Un homme aimant le Christ, le premier de la ville, Jean-fils de Diomède, avec des fonds propres, comme en don à Dieu, a dédié ce bel édifice et a placé en ses lieux la vénérable relique du splendide et victorieux Saint-Martyr Georges, qui lui a paru, c'est-à-dire Jean avait eu une vision, non pas en songe, mais ouvertement, etc. Et ensuite, il y a la date. Le texte, écrit sans consigne diacritique et de façon continuelle, est structuré en trois parties, comme vous le voyez. C'est moi qui a divisé pour des raisons de clarté les parties, évidemment. La première, les lignes 1, 4, est un hymne rythmique composé de colas parallèles et fondé sur les principes de auparavant, maintenant, qui est fréquent dans les inscriptions qui célèbrent la transformation d'un temple païen en église. En tant que tel, l'hymne avait été inclus par Paul Mass dans son recueil d'hymne rythmique tardo-antique, c'est le numéro 11 dans le recueil de Mass. Il se poursuit, après le rythme accentuel, il y a une ligne qui donne le nom du donateur, Jean-Fils de Diomède, et qui a un'apparence d'hexamètre. Aniltis filo Christos, prote von Ioannis. L'incipit anirtis filo Christos c'est un perfestil epic. Il y a pas mal d'exemples de parallèle avec anertis et un adjectif. Et puis il y a une partie en prose dans laquelle les deux premières lignes présentent des clausules rythmiques. L'inscription, en fait, contient en elle-même les moyens expressifs et les rythmes dont nous avons parlé aujourd'hui. Prose, poésie accentuelle et poésie élevée, épique. Il est clair que le passage de l'hymne rythmique à une séquence hexamétrique a pour mission de louer le donateur par une élévation du style. C'est-à-dire quand on parle de Jeanne qui a payé l'Église, les tons s'élèvent. Mais la vraie question concerne le potentiel destinataire, qui était en mesure de percevoir, de lire l'inscription avant tout, de percevoir la structure de l'inscription et de saisir la différence entre les maîtres et les rythmes. Et la réponse à ces questions sera l'objet de notre prochaine rencontre. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.